Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 4 octobre 1945? 4 octobre 1945, le gouvernement français a institué la sécurité sociale. Écoutez bien ces extraits des cet extrait pardon, des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 1945, qui fonde donc officiellement le système de sécurité sociale dont nous sommes encore aujourd'hui bénéficiaires, après bien sûr quelques modifications par-ci par-là. Voici donc extrait des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Je cite. Le but à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité. C'est super, non? Le but à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité. En gros, la sécurité sociale a été inventée pour couvrir tout le monde contre tous les risques. La sécurité sociale porte bien son nom, non? Et donc c'est génial. Enfin, moi je trouve ça génial. Quand on est en France et qu'on bénéficie de la sécurité sociale, on peut vraiment affronter les aléas de la vie en toute quiétude. Si on tombe malade, c'est pris en charge. Si on perd son emploi, c'est indemnisé. Si on est trop vieux pour travailler, on touche une pension. Si on n'a pas assez d'argent pour se payer un logement, on touche une allocation, etc., etc. Bon, il est vrai qu'aux dernières nouvelles, le trou de la Sécu s'élève à peu près à 14 milliards d'euros, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on est en sécurité, c'est pas grave. Bon, j'ai pas l'intention de faire de la politique, c'est pas mon habitude, enfin, peut-être pas de façon directe. En tout cas, tout ce que je veux faire en vous parlant de cela, en vous parlant de cette question de la sécurité sociale, c'est attirer votre attention sur le fait que les êtres humains recherchent la sécurité. Les êtres humains recherchent la sécurité. Ce qui est intéressant à remarquer aussi par rapport à ça, c'est que malgré un système de sécurité sociale qui, nous dit-on, est un modèle en France, un système dont les ambitions historiques étaient merveilleuses, ce système qui était censé couvrir toute la population contre tous les risques, malgré cela, eh bien, un sondage Ipsos réalisé jeudi dernier confirme ce que nous savons déjà depuis un certain temps, c'est que les Français sont les champions du pessimisme. Bizarre, il y a quelque chose qui cloche quelque part, non? On est d'accord? En tout cas, je vous pose la question aujourd'hui à vous. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et si oui, sur quoi ce sentiment de sécurité est-il fondé? Et enfin, ce sentiment de sécurité est-il fiable? Et ce sont là, je crois, les questions qui sont soulevées dans le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier, à savoir le psaume 124. Je suis convaincu d'ailleurs qu'il y a parmi nous aujourd'hui des personnes qui se sentent vulnérables et qui ne savent pas où elles peuvent trouver la sécurité, la vraie sécurité. Il y a certainement aussi parmi nous des gens qui ont l'impression d'être parfaitement prémunis contre toutes les épreuves de la vie. Mais un jour, si c'est votre cas, vous allez découvrir que ce sentiment de sécurité était en réalité parfaitement illusoire. Alors, quelle que soit votre situation, quelle que soit notre situation, la leçon de ce psaume nous concerne tous et c'est la suivante. Écoutez bien. Tu ne seras jamais en sécurité tant que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu ne seras jamais en sécurité tant que tu n'appartiens pas à Dieu. Et pour nous faire comprendre cette leçon, le psalmiste qui est mentionné, vous verrez dans le titre, qui est le roi David, va aborder deux points qui peuvent se résumer à deux phrases. Si vous retenez ça, vous aurez tout retenu aujourd'hui. Premier point, je suis très vulnérable. Deuxième point, Dieu est très secourable. D'accord? C'est facile, hein? On lit le texte. Psaume 124. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que nous sommes en train de consacrer une série de messages à ces psaumes relativement courts que nous trouvons du psaume 120 au psaume 134 et qui sont appelés les cantiques des montées ou bien les cantiques des degrés. Nous en sommes au psaume donc 124 qui s'inscrit dans cette série. Cantique des montées de David. Sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Avant d'aller plus loin, prions. Nous te prions, s'il te plaît, Seigneur, de nous aider dans l'étude de ta parole. C'est toi qui as inspiré ces textes, et c'est toi qui peux nous aider à les comprendre, et non seulement à les comprendre intellectuellement, mais à les recevoir au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur, pour que par ton esprit, ta parole nous transforme. Et c'est cela que nous demandons aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Dans la première partie de son psaume, les versets 1 à 5, David cherche à faire ouvrir les yeux de son auditoire sur la réalité. Il veut leur ouvrir les yeux sur ce qui est la réalité. Il veut nous faire mesurer notre vulnérabilité. Et il le fait par le moyen d'une déclaration et d'une comparaison. La déclaration, c'est la suivante, si je peux paraphraser. Le fait que nous soyons encore en vie ne tient qu'à Dieu. Ok. Et la comparaison qu'il ajoute, nous sommes aussi vulnérables que des piétons devant un tsunami. C'est ça qu'il dit, hein, je paraphrase, je fais court, je simplifie. Mais dans ces versets, David est en train de faire allusion à l'animosité qu'éprouvaient les nations environnantes d'Israël vis-à-vis du peuple d'Israël. Et en fait, pour le peuple d'Israël, c'était là les conditions ordinaires de leur vie. En gros, c'était pas souvent que leurs voisins étaient des amis, d'accord, dans l'histoire d'Israël. Et il suffit de lire l'Ancien Testament pour voir qu'il y avait toujours quelqu'un qui voulait s'en prendre à Israël. Toujours. Malgré cela, Israël a toujours subsisté. Le peuple d'Israël a toujours subsisté. Et notamment, sous la conduite du bon roi David, qui a connu de belles victoires contre les Philistins, contre les Édomites, contre les Moabites, contre les Syriens, contre les Ammonites, contre toutes sortes d'autres parasites. Mais David, ici, insiste sur le fait que la survie d'Israël ne tient qu'à Dieu. Ils ont connu de belles victoires avec David, avec le roi David, avec son armée, et tout ça. Mais la survie d'Israël ne tient qu'à Dieu. David ne veut surtout pas que son auditoire ait un sentiment de sécurité mal fondé. La réalité, dit-il, c'est que nous sommes aussi vulnérables que face à un tsunami. Qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui était pour nous, sans l'Éternel qui était pour nous, il répète. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivants. Vous voyez la comparaison qu'il ajoute, verset 4. Alors les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Vous vous souvenez du tremblement de terre en 2011, au large du Japon. Et vous vous souvenez des images qu'on a vues du tsunami qui a suivi, qui a provoqué l'accident nucléaire. Je me souviens très bien, moi, de ces images à la télé, de la mer qui s'est soulevée et qui a pénétré à l'intérieur des terres sur une distance de près de 10 km par endroit. Et qui a tout ravagé sur son passage. De l'eau qui venait de la mer, de l'eau qui avait toujours été là. Je me souviens des vidéos amateurs qu'on a pu voir par-ci, par-là. On voyait monter le niveau de la mer, et monter encore, et envahir les rues, et balayer les voitures, et même soulever des maisons entières. Vous vous souvenez de ces images? Tout a été rasé au passage de cette vague immense. 18 000 morts à la suite de ce tsunami. Et vous vous souvenez peut-être aussi du tsunami en Indonésie, en 2004, en décembre. Là encore, on a vu des images terrifiantes, des gens qui se prélassaient sur la plage, des touristes qui étaient venus bronzer et qui ont été emportés en quelques secondes. 230 000 morts ce jour-là, sous l'effet de l'eau, de ces flots impétueux, de ces torrents qui ont tout ravagé. C'est ça la comparaison que fait le roi David, ici, dans son psaume, pour nous faire comprendre quelle est notre véritable vulnérabilité, versets 4 et 5. Nous sommes aussi vulnérables que des piétons devant un tsunami. Ça, c'est la réalité. David veut ouvrir les yeux de son auditoire sur ce qui est vraiment la réalité, pour pas qu'ils aient un sentiment de sécurité mal fondé. Et donc, le fait que nous soyons encore en vie ne tient qu'à Dieu. C'est ça qu'il dit dans la première partie de son psaume. Est-ce que c'est ça que vous vous êtes dit en vous levant ce matin? Le fait que je sois encore en vie ce matin ne tient qu'à Dieu. Le fait que je ne sois pas mort dans mon sommeil ne tient qu'à Dieu. Ou bien est-ce que vous vous êtes regardé dans la glace ce matin et vous vous êtes Vous vous êtes félicité d'être beau et en bonne santé, d'avoir de quoi manger, de quoi vous habiller. Beau gosse, va. J'allais me faire mon petit café. Je le mérite bien. Peut-être pas vous, mais moi ça m'arrive. J'ai appris cette semaine qu'une jeune femme que j'ai connue quand elle était toute petite, et par conséquent moi aussi j'étais tout petit, j'ai appris cette semaine que cette jeune femme a été emportée par une avalanche dans les montagnes en Écosse, pas plus tard qu'il y a 8 jours. L'alerte a été donnée assez rapidement après cet accident, grâce à d'autres randonneurs qui se trouvaient sur place, et il y a eu 50 secouristes qui ont été mobilisés avec des chiens pour rechercher les victimes, malgré des conditions très difficiles et dangereuses. Et 4 des compagnons de cordée de cette jeune femme ont été retrouvés morts, ensevelis sous 2 mètres de neige. Elle a été retrouvée, quant à elle, dans un état critique, mais vivante. Très meurtrie, blessée au visage, à la tête, mais vivante. Et aux dernières nouvelles, son état serait stable. Toujours très grave, mais stable. Et si elle s'en sort, est-ce que vous pensez que cette jeune femme va se regarder dans le miroir et se dire « Franchement, j'étais trop forte de m'en sortir. Trop forte, ouais, je suis la meilleure. » Vous pensez qu'elle va se dire ça? Ça m'étonnerait. Et pourtant, ce genre de présomption-là, que je caricature, bien sûr, c'est ce qui nous caractérise bien souvent. Et c'est ce que David veut corriger ici au travers du début de son psaume. Il veut que nous ouvrions les yeux sur la réalité. Il veut faire disparaître ce genre de suffisance, ce genre de présomption, ce sentiment de sécurité mal fondé. Le fait que nous soyons encore en vie ne tient qu'à Dieu. Le fait que vous n'ayez pas eu un accident grave sur la route pour venir ici ne tient qu'à Dieu. Le fait que vous ne soyez pas mort dans un attentat dans le métro cet après-midi ne tient qu'à Dieu. Le fait que vous vous soyez remis de votre dernière maladie, que vous n'êtes pas aujourd'hui à l'hôpital, dans le coma, ne tient qu'à Dieu. Le fait que votre conjoint ou que vos enfants ne soient pas dans une chaise roulante aujourd'hui ne tient qu'à Dieu. Et ce n'est pas parce que vous êtes meilleur ou plus fort que les autres. C'est la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu. Ce n'est pas grâce à la sécurité sociale, si je peux me permettre. C'est grâce à Dieu et à sa providence. Je n'ai pas le contrôle de ma vie. D'accord ? Et vous non plus. Je ne peux pas, en vérité, me prémunir contre les épreuves et la difficulté. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas en mon pouvoir. Je suis très vulnérable. Alors à quoi est-ce que ma vie est suspendue dans ce cas ? À quoi est-elle suspendue dans ce cas ? Eh bien, voici la réponse de notre confession de foi, notre belle confession de foi, qui confirme ce que dit le roi David dans ce psaume. Écoutez bien, c'est un très beau passage de la confession de foi. Dieu, le grand créateur de toute réalité, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde glorieuse. Voilà à quoi notre vie est suspendue, la vôtre comme la mienne. À la providence de Dieu. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point. Dans la deuxième partie du psaume, versets 6 à 8, deuxième et dernière partie, David nous invite cette fois à mesurer combien grande est la puissance de Dieu pour nous secourir. Première partie, il a dit « Je suis très vulnérable ». Deuxième partie, « Mais Dieu est très secourable ». Et donc, notre sécurité repose sur lui. Et ici aussi, David va faire une déclaration et une comparaison. Encore une fois, je simplifie, je résume, je paraphrase. La déclaration serait la suivante. Nous pouvons entrer au bénéfice de la puissance de Dieu. Nous pouvons entrer au bénéfice de la puissance de Dieu. Et la comparaison qu'il ajoute, « Quand Dieu nous sauve, c'est aussi incroyable qu'un oiseau qui s'échappe du piège de l'oiseleur. » Et ici donc, David est en train d'inviter son auditoire, vous et moi compris, à méditer sur la puissance de Dieu qui est favorable à son peuple. Et en l'occurrence ici, la puissance de Dieu qui est favorable à Israël. Alors on ne sait pas vraiment, on ne sait pas exactement à quels événements historiques David fait référence dans ce psaume. Quand il parle de la protection de Dieu, quand il évoque cette protection de Dieu. Mais l'idée sur laquelle il insiste, c'est que la puissance de Dieu n'a aucune limite. La puissance de Dieu n'a aucune limite. Il s'est montré favorable à Israël dans son histoire, peu importe les événements auxquels on peut penser. Mais pensons à l'événement par excellence, la délivrance d'Égypte. La puissance de Dieu n'a aucune limite. Il s'est montré favorable à Israël dans son histoire, mais ces événements-là, qui ponctuent l'histoire d'Israël, et qui vont continuer à ponctuer son histoire, même après le roi David, ces événements constituent surtout pour nous un rappel concernant le fait que Dieu est capable de sauver dans les circonstances les plus désespérées. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait lorsque le peuple d'Israël, étant sorti d'Égypte, s'est retrouvé devant la mer des joncs, avec des troupes égyptiennes furieuses juste derrière et nulle part où aller. C'est un exemple censé nous rappeler que Dieu est capable de sauver dans les circonstances les plus désespérées. Voilà pourquoi le psaume s'achève sur cette leçon générale et magistrale à la fois. Le dernier verset, qui est un écho d'ailleurs du psaume 121, si vous vous souvenez de notre étude du psaume 121, où il dit donc à la fin du psaume 124, « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est une déclaration de la puissance illimitée de Dieu. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. D'accord ? Qui est au-dessus de toute réalité qui existe autour de nous. Il est au-dessus de tout ça. Sa puissance n'a pas de limite. Et donc, à partir de là, c'est une belle façon de conclure son psaume. Il n'y a plus rien à ajouter. Tout est là. Alors, vous savez ce qui se passe parfois dans les cours de récréation, dans les conversations entre petits garçons à l'école primaire. Moi, mon papa, il est monté en haut du Mont Blanc. Ah ben moi, mon papa, il a traversé la Manche à la nage. Ben moi, mon papa, il a sauvé la vie du président de la République. Et toc. Ben moi, mon papa, il a tué un requin à main nue. Et ben moi, mon papa, il a fait les cieux et la terre. Vas-y, essaye de faire mieux que ça. Si vous connaissez personnellement celui qui a créé le ciel et la terre, c'est ce que nous prétendons, non, en tant que chrétiens. Si vous connaissez personnellement celui qui a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire celui qui a établi toutes les lois de la physique, celui qui a inventé l'atome et le trou noir, celui qui gouverne toutes ces choses selon sa volonté souveraine, si vous le connaissez personnellement, dites-moi s'il y a quelqu'un ou quelque chose de mieux placé que lui pour vous secourir. Bien sûr qu'il n'y a personne d'autre. Je suis très vulnérable, mais Dieu est très secourable. Et ce qui est intriguant dans ce psaume, c'est le fait que David semble vraiment avoir l'assurance que ce Dieu Tout-Puissant est vraiment pour lui. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs, dès le premier verset, sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dit, sans l'Éternel qui était pour nous. Et de nouveau, à la fin, en conclusion, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Comment est-ce qu'il peut être aussi sûr que l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, est pour lui, pour nous, pour son peuple, enfin en tout cas pour le peuple d'Israël. Parce que si ça se trouve, Dieu est en train de préserver Israël dans ce texte, par cruauté quelque part, vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'il est en train de faire durer le plaisir, parce qu'il se le réserve pour un jour où il pourra le détruire vraiment, tu vois. On pourrait toujours imaginer ça. Comment savoir quelles sont les intentions de Dieu, en fait ? Comment le savoir ? C'est pas difficile de s'imaginer un Dieu tout-puissant. Mais comment savoir quelles sont ses intentions ? David, lui, il sait quelles sont les intentions de Dieu parce que Dieu les a révélées, ses intentions. Et non seulement il les a révélées, mais parce que Dieu s'est engagé par un serment irrévocable à sauver son peuple. Il s'est engagé par un serment irrévocable à sauver son peuple. Voici ce qu'il dit, d'ailleurs, dans un autre... Ces paroles qui nous sont rapportées dans un autre psaume, au psaume 89, verset 35 et suivant. Ce sont des paroles qui sont attribuées à Dieu, à l'Éternel. « Je ne profanerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, et mentirai-je à David ? Sa descendance subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il sera établi pour toujours. » Vous voyez pourquoi David, il sait que l'Éternel est pour lui ? Parce que l'Éternel a juré par sa sainteté. Rien que ça. L'assurance de David est bien fondée parce qu'elle est fondée sur les promesses de Dieu, sur les promesses que Dieu a faites à son peuple et notamment au roi David. Des promesses parfaitement fiable parce que Dieu a juré par sa sainteté, par sa propre sainteté. David sait que Dieu s'est engagé à sauver son peuple, à le sauver de ses pires ennemis, à le faire subsister. Et c'est pour cela, c'est pour réaliser cela que Dieu a promis la venue d'un Messie. Et c'est de cela dont il s'agit lorsque l'Éternel dit à David, ta descendance subsistera toujours, ton trône sera devant moi comme le soleil. Il ne s'agit pas du trône de David, mais du trône de sa descendance, du Messie qui doit venir de la lignée de David pour vaincre une fois pour toutes les ennemis du peuple. C'est un Messie, un roi dont le trône serait établi une fois pour toutes, dont le règne serait éternel et dont la puissance s'exercerait de la part de Dieu en faveur du peuple. Et pour David, pour le roi David, dans ce psaume, elle est là, la sécurité ultime. Elle est là, elle est dans la promesse de la venue du Messie, mais non seulement dans la promesse de sa venue, mais dans son œuvre à venir, dans cette victoire qu'il va gagner pour le peuple, et dans le trône qui serait établi à jamais. Il est évident que David, dans ce psaume, n'est pas en train d'affirmer que ceux qui croient en Dieu deviennent immédiatement immunisés contre toutes les difficultés de la vie. On en a déjà parlé de ça lorsqu'on a étudié le psaume 121. Mais ce que David dit ici, c'est qu'il y a réellement une sécurité ultime, finale, suprême, éternelle, une vraie sécurité, quoi, pour tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Car Dieu est capable de délivrer notre âme comme il est capable de faire sortir un oiseau du piège de l'oiseleur alors que sa situation, sa cause est désespérée. Il est capable de nous sauver, nous aussi, dans les circonstances les plus désespérées. Et quel est le problème qui nous cause le plus de désespoir en tant qu'être humain? Franchement, ce n'est pas le problème de la maladie, ce n'est pas le problème du danger, ce n'est pas le problème de l'insécurité politique. Ce qui nous pose le plus problème, c'est le problème de notre propre cœur. C'est le problème du péché. C'est le problème de la mort, qui est un problème universel. Notre situation est bien plus désespérée devant le péché et la mort qu'elle l'est devant la maladie, le danger, le chômage, et ainsi de suite. Et c'est précisément pour nous délivrer de cette situation-là que le Messie est venu dans l'histoire. Il s'agit de Jésus-Christ, le Fils même de Dieu. Et il a donné sa vie en sacrifice, en mourant sur la croix. Mais vous le savez aussi, son œuvre ne s'est pas arrêtée là. Il est ressuscité, réellement ressuscité. Le troisième jour est là. Il s'est assis sur le trône qui lui était réservé. Il a établi son règne, un règne éternel. Dieu a réellement déployé sa puissance pour nous délivrer et nous assurer cette sécurité éternelle. C'est-à-dire l'assurance que quoi qu'il nous arrive, rien ni personne ne pourra jamais nous arracher de la main de Dieu. Si nous lui avons remis notre vie. Et voilà pourquoi nous pouvons vraiment déclarer de tout notre cœur, comme David, que notre secours est réellement dans le nom de l'Éternel. Nous pouvons le déclarer solennellement et en être intimement convaincus, parce que Dieu non seulement a révélé ses intentions bienveillantes à l'égard de tous ceux qui lui font confiance, et non seulement Dieu s'est-il engagé par un serment irrévocable à délivrer une fois pour toutes tous ceux qui lui font confiance, mais en plus, le Fils de Dieu est venu en personne, dans l'espace et dans le temps, et par sa mort et sa résurrection, il a triomphé du mal et de la mort en faveur de tous ceux qui lui font confiance. Il en a parlé, il l'a juré, et il s'est déplacé pour le faire. Il a établi son règne éternel et il réserve une place dans son royaume à tous ceux qui lui font confiance. Alors est-ce que vous lui faites confiance? En introduction, je vous posais la question. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et si oui, sur quoi ce sentiment de sécurité est-il fondé? Et enfin, ce sentiment de sécurité est-il fiable? J'espère que vous voyez maintenant pourquoi je disais que c'était ces questions qui étaient soulevées par ce psaume 124. Et aujourd'hui, ce soir, vous étiez peut-être quelqu'un qui se sentait vulnérable et qui ne savait pas où trouver la sécurité, la vraie. Ou bien vous étiez peut-être quelqu'un qui avait l'impression d'être parfaitement prémuni contre les épreuves de la vie, mais dont le sentiment de sécurité était en réalité tout à fait illusoire. Aujourd'hui, J'espère que vous avez bien entendu le message que ce psaume nous adressait, qui est le suivant. Tu ne seras jamais en sécurité tant que tu n'appartiens pas à Dieu. Oui, je suis très vulnérable, mais oui, Dieu est très secourable. Nous devons par conséquent faire attention à ne pas, dans notre marche chrétienne, à ne pas glisser dans la suffisance en nous imaginant que nous sommes parfaitement bien équipés par nous-mêmes pour faire face aux difficultés. Notre sécurité n'est pas non plus dans l'état-providence, dans les allocations, dans les pensions, dans les indemnités. Non, la réalité, c'est que nous sommes comme des piétons face à un tsunami. Telle est la réalité à laquelle le psaume nous ramène. Nous sommes comme des oiselets pris au piège de l'oiseleur, totalement vulnérables. Donc pas de suffisance, mais nous ne devons pas non plus nous morfondre dans le pessimisme ou dans le désespoir. Le monde, mes amis, n'avance pas au hasard. Notre vie n'est pas sujette aux caprices d'un Dieu tout-puissant dont on ignorerait tout du caractère. Notre vie n'est pas sujette aux caprices d'un Dieu qui fait on ne sait pas trop quoi. Non, notre vie est suspendue à la volonté souveraine d'un Dieu qui est bon, juste et sage, tel que la Bible nous le révèle. Il gouverne toutes choses selon sa sainte providence. Mais surtout, mes amis, il est en train de réaliser un plan merveilleux en faveur de tous ceux qui lui appartiennent. Et si vous ne lui appartenez pas déjà, vous pouvez dès aujourd'hui vous humilier intérieurement devant lui et lui dire tout simplement dans le secret de votre cœur que vous lui remettez les rênes de votre vie. Et il les prendra. C'est risqué de dire ça à Dieu, parce qu'il le fait après. Mais dorénavant, si vous faites cela, eh bien, quoi qu'il vous arrivera, vous pouvez avoir l'assurance d'être en parfaite sécurité. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu, notre Père, pour cette sécurité parfaite, la vraie sécurité que tu nous offres en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as dit, ce que tu as promis et ce que tu as fait. Et même merci pour ce que tu feras. Merci pour toutes tes promesses qui sont fiables, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Seigneur, augmente notre foi, s'il te plaît. Réduis notre suffisance. Et augmente notre confiance en toi. Amen.